sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.
Salut à toi auditeur, salut à toi auditrice. Je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau podcast du Psyné Club. Et je voudrais tout d'abord m'excuser de tout ce temps qui s'est passé sans que je publie un seul épisode. J'ai juste fait mon gros feignant et c'est pas beau. D'ailleurs, pour reprendre tranquillement, j'ai décidé de faire ce podcast en mettant en avant le travail du psychiatre Pierre Ludovic Lavoine sur le film de Claude Chabrol, L'Enfer, à propos de la paranoïa.
Non mais dis donc Cédric Piolo, tu nous fais quoi là? Du plagiat?
Eh oui, il vous avait manqué celui-là. Il est toujours là. C'est mon moi relou ou mon moi chiant. Entre pulsion et morale, il sait jamais trop où il habite, mais il est là pour poser de bonnes questions. Alors je te réponds. Plagiat, définition. Copier l'œuvre ou une partie de l'œuvre de quelqu'un et s'en attribuer la paternité. Je ne plagie pas, j'ai simplement eu un coup de cœur pour un article parce que je voulais faire un travail avec mes étudiants sur la paranoïa. En me documentant, je suis tombé sur ce film de Claude Chabrol et avec quelques recherches, je suis rapidement tombé sur l'article du docteur Lavoine. Il est tout simplement génial cet article. Il y a tout. Alors je vous propose dans ce podcast de reprendre cet article quasi mot pour mot, une lecture en quelque sorte, mais en y mettant quelques ponctuations personnelles sur ce que je pourrais rajouter afin d'être complémentaire. Bref, le délire jaloux mis en scène, c'est le titre de l'article de Pierre Ludovic Lavoine, issu de la revue Santé Mentale d'avril 2016. C'est parti!
Oh, c'est pas sa faute, hein. Je sais qu'elle m'aime, à sa façon. Seulement, quand ça la prend, c'est n'importe où, n'importe qui, le client, le garagiste, le barman. Elle est malade.
Attends, fais voir un peu, toi.
Maintenant, ça vous paraît peut-être dur à croire.
Tu vois pas que je t'aime, que je suis ta femme. T'as vu mes yeux? Ils sont beaux. C'est pour toi que j'ai pleuré, c'est pour toi. Je me disais, qu'est-ce que je vais devenir s'il revient pas? Sans lui, je suis plus rien. Plus rien.
Paul Prieur rencontre Nelly, magnifique et pulpeuse. Le couple se marie rapidement dans la joie, le bonheur et l'euphorie des sentiments amoureux. Paul achète un hôtel qu'il va faire fructifier au prix d'un travail soutenu et intense. Nelly passe ses journées entre leur petit garçon et l'accueil des clients de l'hôtel. L'histoire se déroule dans un huis clos entre hôtel, décrit avec précision par la mise en scène de Claude Chabrol, et les relations de ce couple qui vont petit à petit se dégrader. En effet, Paul est rongé par un mal, la jalousie. Sentiment banal au premier abord, mais qui, en s'amplifiant, prend une tournure destructrice. L'atmosphère tranquille de cette histoire d'amour se transforme petit à petit en angoisse et monte en puissance avec une passion persécutrice jusqu'à l'enfer. Bienvenue au Psyné Club, dédié à la paranoïa, grâce à l'article de Pierre Ludovic Lavoine, psychiatre.
Je suis jaloux.
Jaloux? De qui? De quoi?
Je sais pas. J'en crève. J'en crève. J'en crève. Alors, tu t'es reposé?
Oui.
Pendant une demi-heure?
Non, pendant 5 minutes.
Faux! Vous avez filé à 11h30 et midi sonnait quand je suis arrivé.
On est parti à 11h30. On a été jusqu'à la digue et au retour, je me suis reposée. Dans l'île, c'est vrai. Mais parce que j'étais fatiguée.
Et c'est pour ça que tu t'es couché dans l'herbe?
Je ne suis pas couché dans l'herbe.
Tu mens!
La capacité de ce film à illustrer les principales caractéristiques du délire paranoïaque en fait un film tout à fait intéressant pour comprendre les généralités, les symptômes et les formes de ce trouble psy. La personnalité de Paul est suspicieuse, soupçonneuse. Elle met en doute la parole de l'autre. Il va par exemple vérifier le prix d'achat du sac de sa femme, persuadé qu'elle lui dissimule une dépense excessive. Cette tendance interprétative se voit également lorsqu'il apprend que d'autres hôtels s'ouvrent dans la région il ne peut s'empêcher de penser que c'est dirigé contre lui pour profiter de l'endroit auquel il a rendu son attrait. Rapidement, Paul apparaît comme un homme anxieux, nerveux, peu sûr de lui, se laissant envahir par des interrogations perpétuelles. Tout au long du film, son malaise ira crescendo. Sa nervosité croissante, ses insomnies, ses crises d'angoisse nocturnes et une consommation excessive de tabac et d'alcool aggravent son impulsivité dominante. Paul a une idée fixe, celle d'être trompé par sa femme. Il a donc une forte jalousie guidée par une intuition, il lui arrive même de faire irruption dans une pièce de l'hôtel alors que sa femme assiste dans le noir à une projection de photos faite par un client réputé séducteur. Cette scène enlève à notre homme tout doute de la fidélité de sa femme. C'est le point de départ d'une série d'interprétations qui viendront renforcer la conviction d'être trompé. Ainsi, au lieu de reconnaître le caractère inapproprié de ses espionnages, il demande à sa femme de lui fournir des raisons qu'il aurait de la croire. Dans un souci de bien faire, Nelly demande au client, jalousé par son mari, de ne plus fréquenter l'hôtel. Et paf ! Ceci est ma ponctuation. Cette décision est interprétée par Paul comme une manipulation. À bout d'argument, Nelly décide de ne plus quitter l'hôtel. La logique délirante de son mari s'accentue. Si elle ne veut plus sortir, c'est pour prendre un amant sur place, et c'est au tour du serveur de devenir le suspect numéro 1. Le mari finit par perdre toute capacité de jugement et d'objectivité. Tout fait sens autour de lui. Le bracelet de sa femme, trouvé au grenier, devient la preuve irréfutable qu'elle vient de le tromper. La nuit, réveillé par l'angoisse, il tâte les pieds de Nelly, qui sont froids, et en déduit qu'elle s'est levée pour aller coucher avec un client.
Mais enfin, mon vieux, qu'est-ce qui vous prend ? Vous vous rendez compte ?
Bon, ça va, hein, quand on a du fric, on saute la femme du bistrot, c'est ça ? Impeccable !
Mais calmez-vous, mon vieux, calmez-vous ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Où est votre femme ?
Vous voulez vraiment que je vous casse la gueule ? Hein ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est quoi, ça ?
Ça ?
Hein ?
Oh, ça, c'est que dalle ! C'est le noir ! Qui est venu faire une petite belote après le dîner ! Eh oh, soyez sérieux, mon vieux !
Paul a une suspicion permanente. Les interrogations qu'il fait subir à sa femme ne lui suffisent plus.
Mais dis donc, Cédric Piolo, il aime pas sa femme ? Quand même, il pourrait se rendre compte qu'il lui fait du mal. Et la confiance dans le couple, c'est important.
Mais comme tu es sentimentalement moi, c'est mignon ! En temps normal, oui. La confiance dans le couple, c'est même nécessaire. Pour moi, Paul n'est pas soumis au même principe de réalité que la plupart des gens. C'est-à-dire la capacité de prendre du recul et critiquer ce qu'il voit de manière raisonnable. Paul a un problème dans sa construction du monde. Ses mécanismes de défense sont projectifs, c'est-à-dire que ce qu'il ne supporte pas chez lui, il le voit chez l'autre. Il n'en a d'ailleurs pas conscience. Je suis pas malade, c'est elle qui est malade. Nous pouvons penser peut-être qu'une enfance baignée dans un sentiment d'abandon et de trahison a construit Paul avec la conviction qu'il sera de toute façon trahi. Il se méfie et en même temps, il cherche inconsciemment à vérifier sa conviction profonde.
Waouh, non mais t'es perché, Cédric Piolo. Où tu vas chercher tout ça ?
Attention, je n'ai pas dit que ça fonctionnait comme ça tout le temps et pour tout le monde. Pour Paul, il y a tout un tas de symptômes, donc nous cherchons à comprendre. Ce sont des hypothèses à explorer. Malheureusement, cette méfiance excessive ne l'amène pas à se faire aider.
Mais aussi sa rigidité. Il bouge pas d'un iota le Polo.
Oui, son orgueil cache aussi un manque de confiance en lui, et donc à son entourage. Même si Nelly l'aime, Paul est bloqué dans sa décompensation de son trouble psychique.
Ok, ok.
Ma pauvre Nelly, je vous ai vu, Martino et toi, sur la rivière.
Et alors ?
Oh, je t'en prie, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de discuter, je vous ai suivi, c'est tout, ça te suffit. Hein ? Quand vous êtes descendu dans l'île, c'était pour jouer aux cartes ! Je vous ai vu. Je vous ai vu.
Mais qu'est-ce que t'as vu ?
Reprenons l'article de Pierre-Ludovic Lavoine à propos de la mise en acte du délire. Torturé par le doute, Paul accentue les filatures. Il aperçoit sa femme faire du ski nautique en reconnaissant le fameux client séducteur à bord d'un bateau. La folie le prend. Doit-il courir le long de la berge ? Oui, c'est ce qu'il fait. Pour ne pas les perdre de vue, le petit bateau s'arrête sur une île. Paul en est convaincu, cette fois, la liaison existe entre sa femme et ses clients. Brutalement saisi d'une angoisse, il perd tout repère, il rentre confus au milieu de la nuit. Profondément désespéré, le délire est définitivement ancré et inaccessible. Toute tentative de démenti ou de réassurance de sa femme ne serviront à rien.
Mais non, Cédric Piolo, non, il a peut-être raison, ça tient la route. Sa femme part faire du ski nautique avec ce fameux séducteur tranquillou, peut-être qu'elle le trompe.
Je suis pas étonné de ta réaction. Au premier abord, le délire de Paul est fondé sur des faits existants. Je m'explique. Oui, elle fait du ski nautique. Oui, elle va sur une île avec ce monsieur. Elle est bien là. Il la voit. Ça existe. C'est un fait. Mais à quel moment il les voit s'embrasser? Jamais. Paul a un mécanisme délirant appelé mécanisme d'interprétation. À cause de lui, son délire l'amène à des déductions qui, pour lui, sont des vérités cohérentes mais délirantes néanmoins. C'est là, peut-être, la seule fois qu'il les voit ensemble depuis un moment. Dans la balance, il y a d'autres preuves que sa femme lui apporte, tout aussi tangibles. Mais il n'y croit pas. La fausseté du jugement liée aux interprétations empêche Paul d'accéder à une critique. Nous assistons alors à une conviction inébranlable du délire de Paul.
Enfin, à peu près.
Qu'est-ce que je peux faire de plus?
Bien sûr, maintenant, c'est un peu tard, hein. Ce qui est fait, est fait.
Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Tu le demandes? Et ta petite virée dans l'île?
Oh non, tu vas pas recommencer. Je te l'ai dit, j'étais crevée et je me suis reposée. Tu crois pas que tu bois un peu trop?
J'ai froid.
Moi aussi, j'ai froid.
T'en veux? J'en ai marre de tout mon sang. Tu vas me répondre, oui.
Mais lâche-moi.
Tu vas me dire la vérité?
Eh ben oui, je couche avec Martino. Oui, je couche avec Martino. Dans l'île, dans sa voiture. Chez lui, là, là, sur le lit, pendant que t'étais au marché. Là, t'es content maintenant?
Dans cette escalade comportementale, il n'a absolument pas conscience du caractère pathologique de ses actes. Il va soupçonner chaque client. Il n'hésite pas à les harceler de questions. Et fait éruption la nuit dans les chambres, il fait des scandales et l'hôtel perd la clientèle habituelle, ce qui crée un certain isolement social de Paul vis-à-vis du monde extérieur. Le mal le ronge et ça ne fait que s'empirer. Il fantasme sa femme qui se donne à chaque client, il lui fait des scènes de ménage et la violence apparaît. Une nuit, le drame arrive, les coups pleuvent. Elle s'enfuit, elle se réfugie chez leur médecin traitant. Ce qui est intéressant dans la relation de Paul avec Nelly, c'est qu'il montre de l'hostilité et en même temps de la peur. C'est assez caractéristique de ce qu'on appelle l'angoisse d'intrusion. Quelque chose qui échapperait de manière définitive à Paul en s'introduisant dans son intimité, par exemple les amants supposés de sa femme, pour lui prendre une partie de lui-même, c'est-à-dire sa femme. Cette peur intrinsèque et archaïque amène Paul à s'en protéger par un mode projectif. Pierre-Ludovic Lavoine nous explique comment comprendre ce mécanisme.
Oui, je sais, il faut pas que je me mette en colère. Moi, s'il me quitte, il me reste plus rien, vous comprenez? Je peux pas vivre sans elle. Vous me comprenez?
Mais oui, restez calme.
Je vous en supplie, docteur. Rendez-la à moi.
La scène de confrontation du couple chez le médecin traitant est une des scènes les plus fortes du film. Nelly est à bout de nerfs, elle ne sait plus quoi penser ni comment faire avec la peur que lui inspire la folie de son mari. Celui-ci, après avoir laissé entendre que le médecin avait lui aussi profité de sa femme, abaisse ses défenses et livre sans réticence son délire où il accuse sa femme de prostitution. C'est elle qui est malade. Elle est hystérique et possédée par un appétit sexuel jamais assouvi.
Il adhère complètement à son délire, il est envahi par son délire, il est convaincu que ce qu'il dit est la réalité.
Lorsque le médecin suggère qu'il a besoin d'aide, Paul le menace d'un procès pour internement arbitraire.
Elle est bonne, celle-là. C'est elle qui est malade et c'est moi qu'on veut boucler. C'est la meilleure manière. Si vous croyez que je vais me laisser faire, cher monsieur, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, hein? Contrairement à ce que vous croyez, je connais très bien mes droits. L'internement arbitraire, ça peut aller chercher très loin. On est bien d'accord? Je n'ai pas compris qu'elle se fout de vous. Qu'elle vous ment, comme à moi. Hein? Elle ment, comme elle respire.
Voyons, Paul, vous l'avez battue.
Battue? Je l'ai giflée une fois, en 6 ans de mariage. Je vous jure qu'elle l'avait pas volée. Si c'était à refaire, on ferait tout de suite.
Et cette nuit, vous vous rendez compte que vous avez failli l'estropier?
Mais vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir ce que j'ai subi. Au début, je l'ai cru. Et puis à force, j'ai compris. J'ai compris. Et j'ai pardonné. J'ai pardonné. Mais quand votre femme se relève, hein, pour aller faire des passes au grenier, bah vous pouvez plus pardonner. Quand elle se relève à 2h du mat pour aller coucher avec les clients, vous faites quoi? Bah oui, vous faites quoi? Et croyez-moi, j'ai mis du temps avant de la coincer. Parce qu'elle est rusée. Elle se débrouillait toujours pour faire semblant de dormir. Alors moi, je me programmais, je me réveillais. Mine de rien, je lui tâtais les pieds. C'était glacé. T'as compris? C'est bien le prof qui s'est élevé.
Dans un déni quasi complet de la réalité, il projette ses propres pulsions, incontrôlées sur sa femme.
Elle est malade. Regardez-la. Elle se ruine la santé. Regardez la mine qu'elle a. C'est de l'hystérie. Elle est hystérique.
C'est donc l'autre qui est malade, pas lui. C'est l'autre qui est responsable de sa situation, pas lui. Paul ne peut se situer autrement qu'en tant que victime de cette machination.
Ouais, c'est ça la projection.
Exactement. Maintenant, parlons de la fin du film. Attention, je spoilie largement. Donc si vous voulez voir le film et ne pas savoir comment ça se termine, arrêtez le podcast tout de suite. Je vous laisse 2 secondes. Vous êtes encore là? Ok, on y va. Selon Pierre-Ludovic Lavoine, la scène finale du film montre le fameux passage à l'acte. La scène se déroule la nuit. Une ambulance doit venir chercher Paul pour le conduire à une clinique. Celui-ci est persuadé que sa femme va être internée. Elle, pas lui. Il est tendu, anxieux, il boit de l'alcool toute la nuit, il enferme sa femme dans la chambre pour être sûr qu'elle n'ira rejoindre aucun client. Il attache Nelly, qui a pris quelques somnifères, elle ne se rend compte de rien. Les images se bousculent dans la tête de Paul, il voit.
Ou il fantasme.
Sa femme se prostituer. Puis il entend une sirène d'ambulance. Paniqué, il réveille Nelly et lui propose de tout recommencer à zéro. Mais dans une confusion d'images, du sang jaillit d'une lame de rasoir. Nelly tombe inanimée. Paul se demande ce qu'il a fait. A-t-il rêvé? Il dénie une fois de plus la réalité. Cette réalité insoutenable, c'est le meurtre de sa femme.
Je sais plus. Je m'y perds. Je vais détacher pourtant. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'est arrivé?
Que s'est-il passé? Pourquoi il a fait ça?
Les passages à l'acte hétéro-agressifs dans le délire paranoïaque sont souvent dramatiques. Dans ce film, le persécuteur de Paul, c'est Nelly, mais elle est à la fois aussi son amour. Ces deux perceptions de Paul ne peuvent pas coexister en une seule et même personne. Le délire a pris le dessus, et le passage à l'acte de Paul sur Nelly, paradoxalement, le libère d'une souffrance, mais en amènera une autre. À la fois chronique et bien implantée, les délires paranoïaques évoluent très lentement et s'associent parfois à une dissociation de la personnalité, c'est-à-dire une personnalité qui ne se reconnaît plus, qui n'a plus de repères, plus de limites, et qui est à l'origine du passage à l'acte médico-légal souvent gravissime.
Ok, c'est vrai que tu nous as lu cet article, il est très bien, il est très clair, mais tu te mouilles pas trop. Toi, t'en penses quoi là? Le petit Paul, dangereux, pas dangereux, positionne-toi.
Écoute-moi, moi, je suis pas là pour dire si c'est bien, si c'est pas bien. La certitude, c'est qu'une situation de vie comme celle de Paul et de Nelly, c'est dramatique, mais c'est surtout une situation de souffrance. Effectivement, des fins telles que le film de Claude Chabrol peut nous le montrer, c'est terrible pour les familles, c'est horrible pour toutes les victimes. Mais n'oublions pas que Paul reflète une typologie de patients touchés par un trouble gravissime, qui évolue dans la chronicité, comme je le disais. Donc, très difficile de se rendre compte, rapidement, même pour les proches, de l'existence du délire paranoïaque. Paul est dans ce qu'on appelle une forme de paranoïa passionnelle. C'est une forme qui ne touche qu'un seul domaine de la vie. Là, pour le coup, c'est la jalousie. On y retrouve une structuration de la personnalité très rigide, toujours des mécanismes délirants très interprétatifs et imaginatifs. Tout ce qui est vu et perçu autour de lui est bien réel, mais est réinterprété selon sa vision. Cela donne, vu de l'extérieur, une impression de cohérence. Toi-même, mon moi, quand tu as écouté Paul, tu as douté de la fidélité de Nelly, rappelle-toi.
C'est vrai.
De mon point de vue, dans les relations, Paul a une tendance vraiment très forte aux relations exclusives. Et ça, on le voit vraiment avec sa femme, car il est dans cette envie de maîtriser constamment les choses. Et comme il ne les maîtrise pas bien, évidemment, il en souffre. Mais là où vous ou moi prendrions du recul en se remettant en question, j'exagère peut-être un petit peu, pour moi en tout cas, Paul, par son mécanisme projectif, se victimise et n'a pas la capacité de se critiquer. Forcément, au début, Nelly ne voit pas ça comme ça. Elle est amoureuse, elle voit pas le côté malade de son mari, elle se sent même flattée, il est jaloux, donc il aime. Par contre, au fur et à mesure, on sent bien qu'elle essaie de se révolter, mais cette révolte est interprétée par Paul comme un aveu et renforce sa conviction.
Mais dis donc, Cédric Piolo, tout ça c'est irréversible, on peut pas l'arrêter, c'est foutu quand ça a démarré.
C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué à contrôler, à modifier une fois que ça s'est enclenché. Tu vas difficilement déconstruire cette logique délirante et le déni de ses propres troubles n'engage pas la personne à se faire aider. De plus, Pierre-Ludovic Lavoine le dit, c'est une folie assez raisonnée puisqu'elle est cadrée, cohérente et les autres secteurs de vie du sujet ne sont pas touchés jusqu'à un certain point. Car on voit bien comment son commerce, par exemple d'hôtel, petit à petit s'effondre. Ce ciné-club est terminé, je suis vraiment très content d'avoir pu partager les écrits de Pierre-Ludovic Lavoine. Vous retrouverez cet article dans un magazine qui s'appelle Santé Mentale, le numéro d'avril 2016. J'espère avoir complété cet excellent travail, c'est vraiment ma préoccupation première. Par rapport à la paranoïa, je trouve ce film extraordinaire. Donc en conclusion, ce film de Claude Chabrol donne une idée claire de ce que, relationnellement parlant, il y a comme difficulté avec un sujet qui est complètement coupé de sa réalité. Le film permet de repérer les signes qu'on a pu évoquer tout au long de ce podcast. Je ne vous ai pas parlé des hallucinations auditives de Paul, car elles sont rares dans les délires paranoïaques. J'ai été très heureux, je le dis encore, de redémarrer ces podcasts par ce thème du délire paranoïaque et par ce film que je vous invite à regarder avec du recul, bien entendu. Je vous retrouve très prochainement dans un prochain podcast. Merci à vous et je vous rappelle que tout ceci n'est qu'une vision subjective mais assumée de ma part, à la différence que là, je me suis quand même bien appuyé sur la vision de Pierre-Ludovic Lavoine. J'espère qu'il m'excusera les petites libertés que je me suis autorisées. Merci à lui et à bientôt.